je vais parler en français, mais je vais essayer de ne pas parler trop vite pour que ça soit compréhensible. Et je me sers de cette présentation pour vous aider, enfin aider les francophones non natifs à suivre la communication. Donc, je rappelle pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de consulter l'excellente brochure préparée par les organisateurs, que je parlerai des œuvres dramatiques écrites exprès pour la scène russe, en français. Il s'agit parfois de comment formuler comme tel, mais aussi de pièces composées dans le cadre d'une stratégie pour réussir ce scène. Ce corpus est moins volumineux que celui formé par les pièces importées de l'étranger. Il représente quelques dizaines de textes seulement sur les 255 titres joués en Russie en français à l'époque. Hein. Donc c'est pour tout le théâtre francophone. À ce jour, j'en ai dénombré 36. Leur chronologie reconstituée à partir de données très lacunaires embrasse presque tout le règne de Catherine II et va de 1764 jusqu'en 1794. Les types de scènes pour lesquelles ces pièces ont été créées étaient très variés. Le théâtre de cour, le théâtre dans un établissement d'éducation et les théâtres de société, à la cour comme dans la ville. Ce corpus est rassemblé et considéré comme tel pour la toute première fois. Cela a deux conséquences. Le corpus est assez hétéroclite, et ceci à plusieurs égards, et susceptible d'être élargi sans doute assez considérablement, notamment grâce aux recherches effectuées sur le théâtre de société. Il est donc question d'un corpus qui est à ce jour en construction. Les 36 pièces qui le composent ne furent pour la plupart jouées qu'une ou deux fois. Elles représentent donc une minorité dans le répertoire francophone de tous les jours, régulièrement enrichie par les nouveautés des scènes parisiennes. En effet, les comédiens de Sa Majesté impériale, qui jouaient à la fois pour la cour et pour la ville, trouvaient suffisamment de ressources dans le répertoire importé de France. Seules deux pièces ont été composées en Russie pour être représentés sur ce théâtre public. Après une première étude des théâtres d'éducation et de société, l'hypothèse est la même. Ces deux types de scènes partageaient leur répertoire avec la troupe française. Toutefois, ce petit corpus présente pour nous un intérêt particulier dû à une spécificité de la scène francophone en Russie. Il s'agit du fait que la grande majorité des théâtres francophones, y compris le théâtre d'éducation, étaient plus ou moins directement subventionnés par la cour, qui était aussi au centre de la diffusion du répertoire joué. Autrement dit, la quasi-totalité des pièces écrites pour la scène russe avait la cour pour commanditaire. Dès lors, leurs auteurs, logiquement, gardaient cela à l'esprit. Ainsi, cette production dramatique est aussi à même de nous renseigner sur la réception du répertoire français importé, par exemple sur les formes et les problématiques les plus appréciées. Il s'agira bien de la toute première réception, c'est-à-dire du stade avant la traduction. Enfin, on peut par la même occasion s'interroger à quel point ce corpus peut nous renseigner sur le français parlé dans le pays. Ne pouvant pas aujourd'hui exposer une réflexion sur l'ensemble du corpus, je vais me concentrer sur un procédé dramatique qui apparaît dans plusieurs textes et qui dès lors semble caractéristique. Je suis désolé, ça, à chaque fois ça fait ça. Il s'agit de l'emploi du parler incorrect marqué par les erreurs de grammaire ou de phonétique. En somme, tout écart systématique du bon usage ou si l'on veut de la langue légitime d'un personnage. D'emblée, deux cas de figure se dégagent, chacun ayant une fonction différente, celui de la caractéristique sociale et celui de la caractéristique régionale. En voici quelques exemples tirés du corpus en question. Je vous laisserai lire les citations pour ne pas vous imposer ma propre interprétation de ces textes. Dans la comédie de Sedaine, les journalistes, la main d'Ormilly est forcée à se présenter en Inkelmann, un érudit qui est en train d'apprendre le français. Dans une comédie anonyme, La Répétition, le père Thomas s'exprime ainsi. Une autre comédie anonyme, Café ou le danger des proverbes, met en scène toute une série d'idiolectes étrangers et régionaux. Le juif Israël, qui ouvre cette série par exemple, défend ainsi son peuple. On ne sera point étonné de constater la récurrence de ce procédé traditionnel de la comédie. Or, j'aimerais à présent m'interroger sur les significations que cet élément de la dramaturgie pouvait prendre sur la scène russe. Le texte que je vais analyser est chronologiquement le premier dans le corpus. Il fut représenté le 9 janvier 1764, parmi les premières mises en scène de la troupe française, après le retour de la cour à Saint-Pétersbourg. Il s'agit d'une comédie en prose et en acte, intitulée Le Testament, et écrite par Jean-Antoine Lange, comédien français de la troupe impériale. En Russie depuis 1759, l'acteur avait certainement une bonne connaissance du public local. L'impératrice assista à cette représentation, comme à la majorité des spectacles des comédiens français pendant les premières années de son règne. Malheureusement, nous ne disposons d'aucun renseignement sur les réactions du public. Par conséquent, l'interprétation qui suit représente une hypothèse, une possibilité de lecture que j'ai l'intention de rendre convaincante à l'aide de l'étude attentive du contexte théâtral de cette représentation. La création d'une comédie écrite exprès pour la scène russe, pour la scène du nouvel opéra du Palais d'Hiver, était un événement assez exceptionnel. À cette occasion, 150 exemplaires imprimés du texte sortirent de la typographie du corps des cadets. Les éditions ont probablement été distribuées pendant les spectateurs privilégiés, à commencer par la cour, car la salle pouvait accueillir environ 500 personnes. L'auteur et le destinataire de ce texte ayant été établi, je vous propose de regarder de près la pièce même. La comédie de Lange est très peu innovatrice dans sa structure. Elle s'inscrit dans une tradition dramatique facile à saisir, à cerner, celle de la comédie française du 1er 18e siècle. Parmi les titres connus joués par la troupe française impériale, dominaient les comédies d'Audetouche, Rognard, Édincourt, ou encore Campistron. Plusieurs d'entre elles portaient directement sur les états et conditions sociales, sur les barrières entre eux, et de manière générale sur la définition ou sur la redéfinition de ces conditions. Puisqu'il vous faut présenter le sujet de la pièce, je vais par la même occasion introduire les problématiques qui l'entourent. C'est juste une liste de personnages pour que ça soit plus facile à me suivre. Le testament sert dans la pièce à doter deux amoureux, un riche jeune homme, Durville, et une jeune fille vertueuse, Julie, d'une famille noble mais appauvrie. La différence entre leur situation financière apparaît au début de la pièce comme un obstacle, et la mère de Julie l'entretient en tant que telle dans l'esprit de sa fille. Dans le final, on apprend cependant que toutes ces difficultés servaient à éprouver l'amour des jeunes gens, telle était la condition de la succession imposée par le testament. Les personnages secondaires partagent la scène avec les amants malheureux. D'une façon assez conventionnelle, mais non moins significative, la pièce commence et termine par les répliques du jardinier Luca. Sa fille Nanette et le valet du jeune amoureux Arlequin forment un couple parodique avec ses propres références et conflits. Le bonheur de ces derniers dépend pourtant, en accord avec la hiérarchie sociale, du destin de Durville, le maître du château. Les obstacles à la réunion des gens amoureux servent de prétexte aux beaux raisonnements et tendres déclarations qui mettent en relief les valeurs des personnages et de là leur état. D'Urville déclare à Julie que les sentiments permettent de remettre à niveau les fortunes. Je suis riche, vous êtes pauvre, eh bien votre sort est égal au mien puisque je vous aime. Pourtant, la mère de la jeune fille affirme qu'aimer est un crime quand l'honneur s'y oppose. Elle est persuadée que chercher à lier sa fille avec le fils de la comtesse qui les a accueillis dans son château serait abuser des bienfaits de celle-ci. Vous ignorez sans doute que vous êtes sans fortune, dit Madame de Versac à sa fille, qui ne conçoit pas de désobéir. Ce conflit permet surtout de mettre en évidence la noblesse des sentiments de Julie, dont l'âme sait accueillir à la fois l'amour et le devoir, une qualité nécessaire pour un mariage heureux. Les personnages non nobles, comme ils se doivent, n'évoquent pas leurs sentiments, à une exception près, capitale, sur laquelle je vais revenir. Leur discussion porte principalement sur leur statut et leur représentation sociale. Ainsi, le cas accueille Arlequin qui fait la cour à Nanette avec la déclaration suivante. « Monsieur Arlequin, Nanette n'est pas pour vous tant que vous porterez un habit qui ne vous appartiendra pas. » Le jardinier fait ici référence à la profession d'Arlequin qui, en tant que valet, obtient sa livrée de la part de ses maîtres. Le jardinier trouve en effet son métier plus honorable que celui de domestique, car plus indépendant des caprices du maître. Par ailleurs, il tient à ce que sa fille soit dans le même état que lui et répond ainsi à l'intention d'Arlequin de placer Nanette chez une grande dame. Voilà sa réponse. Donc, je n'y lirai pas. J'aimerais seulement attirer votre attention aux particularités de l'idiolecte de Lucas. Sa façon de parler, que sa fille partage, est conçue comme anormale par Arlequin, qui se voit défendre le prestige de la vie parisienne. Il qualifie les inclinations du jardinier de roturière. Ce terme, accompagné de l'évocation de la capitale et des titres de son ascendance, désigne clairement les aspirations d'Arlequin qui songe à l'ascension sociale. C'est pour cette raison-là qu'il censure Nanette. Je cite, « Il faudrait te défaire de tous ces mots « je disons »,« je savons », »,« je faisons ». Ce n'est pas comme cela qu'on parle à Paris. Néanmoins, Nanette défend la franchise d'expression en disant à Arlequin au sujet de leur correspondance ceci. Ce conflit, apparemment secondaire pour le sujet de la pièce, porte donc sur la volonté d'Arlequin d'approcher la grande noblesse. Le père de son amoureuse, au contraire, souhaite que sa fille et son mari conservent son état. Le public, pétersbourgeois, devait bien se rendre compte que ce n'était pas là précisément le parler de Paris. Le style du peuple était créé sur scène par des fautes de grammaire et des déviations phonétiques qui pouvaient difficilement échapper aux spectateurs francophones. Curieusement, le procédé fut rapidement appliqué à la comédie russe, qui n'osait pourtant que petit à petit introduire sur la scène les conditions basses. Un an après la mise en scène du testament, un paysan russe, avec un idiolecte caricatural, amusait la cour dans l'adaptation de la comédie de Grasset, Sidney, signée Denis von Wiesen. De manière générale, Boris Uspensky observe qu'au XVIIIe siècle, au moment des débats autour de la normalisation du russe littéraire, apparaît l'intérêt pour le langage incorrect. Les parlers populaires et les patois qui leur sont associés représentaient un exemple évident d'un tel langage défectueux. Uspensky cite plusieurs pièces dramatiques en russe qui, à partir des années 1760, mettent en scène des patois locaux. Or, l'exemple du testament indique qu'il s'agit d'un phénomène plus général dépassant le cadre de l'histoire de la langue russe. Dans le temps qui me reste, je tâcherai d'éclaircir les significations de ce phénomène. Dans les deux cas, celui de la comédie d'Olange et celui de Cléon, de von Wiesen, les bons hommes qui travaillent avec la terre viennent dire des vérités sur l'ordre social. Le jardinier Luca, par exemple, formule une critique sociale qui reste sa véritable réponse, alors que le dénouement de la comédie lui donne manifestement raison. Il distingue deux façons de servir son maître. Il ne s'agit pas pourtant pour Luca de proclamer l'indépendance des agriculteurs, comme dirait un critique marxiste. Il défend en réalité un ordre établi et il continuera à travailler pour le château qui, lui, appartiendra au même maître. C'est pourquoi il voit le projet d'Arlequin lié à sa fille comme une transgression et que, d'autre part, Nanette elle-même tient à la franchise de son langage. Idéolecte égale ici sociolecte. Or, sur la scène, changer de sociolecte signifierait changer de condition. L'équilibre momentanément dérangé, plutôt par ignorance des circonstances que par une mésaventure réelle, se réinstaure à la fin de la comédie. Durville garde le château, Madame de Versac et sa fille sont à nouveau fortunées, et Julie est non seulement vertueuse, mais aussi bien dotée. Lucas reste auprès du château et son bon maître, et Arlequin n'a ainsi plus à faire le choix entre Nanette et Paris. L'action de la pièce soutient et affirme le discours du jardinier et l'expression rustique de ses émotions encadre l'action. Est-ce que la fonction de ce personnage dans la structure de la comédie était ou n'était que de faire rire? Grâce aux notes de Simon Parochin, un des chevaliers de l'entourage du grand-duc Paul, nous savons que l'apparition du personnage du paysan dans la comédie Créon a beaucoup amusé le Tsarevitch. On peut imaginer le reste du public de cour. Par analogie, et surtout compte tenu de la fréquence de ce type d'emploi sur la scène, Lucas se présente lui aussi comme porteur de l'effet comique qui participait à la construction de l'illusion théâtrale. Selon la phénoménologie du spectacle comme elle a été formulée au XVIIIe siècle, cette illusion était à l'origine de la rencontre émotionnelle entre l'action et le public, condition nécessaire pour que la leçon théâtrale soit efficace. Or, le choix des effets et des réactions qu'il programme dans le genre comique se diversifie à l'époque. La comédie fait toujours rire, mais des années 1730, elle veut aussi faire pleurer. Le touchant, l'attendrissant, le pathétique devient progressivement l'arme principale du didactisme théâtral. Dans le cadre d'une analyse, l'objet d'attendrissement, tout comme celui de rire, est susceptible de donner accès aux enjeux idéologiques d'une pièce dramatique. Il me semble que l'effet théâtral de personnage du jardinier Luca réside en grande partie dans sa réflexion sur le social, mais surtout dans sa capacité d'avoir et d'exprimer des émotions dites nobles, capacité qui n'était pas traditionnellement accordée à ce type de personnage. L'ordre social qu'il préserve définit ses sentiments envers les individus qui le composent. Il exprime son affection dans la toute première phrase de la comédie, quand il dit à Madame de Versac ceci. Et dans la dernière réplique de la pièce, cela. Un homme de basse condition, affecté par les malheurs de son maître, sans que son propre intérêt matériel n'y soit mêlé, tel est l'objet d'attendrissement dans le Testament, ainsi que dans plusieurs pièces françaises des années 1730. Contrairement à Don Juan de Molière, où Sganarelle regrette ses gages plus que son maître, Lucas et ses pères restent fidèles non pas à leur poche, mais aux liens qui organisent l'univers patriarcal du château seigneurial. Ce dernier, je n'ai presque pas besoin de le rappeler, est une allégorie de la cité. Les métaphores des sentiments habitent, pour ne pas dire dominent, le discours politique de l'époque. Un diplomate français donne un commentaire suivant au coup d'état de Catherine II en 1762. Je cite « Cette princesse, régnait déjà sur tous les cœurs. Le lien sentimental entre souverain et les sujets, entre le maître et le serviteur, traversait donc le discours politique et encomiastique qui justifiait la légitimité de l'ordre politique et social. Le corpus étudié suit cette tendance majeure en nous offrant l'accès au laboratoire où se fabriquent les scénarios idéologiques de la monarchie russe avant d'être diffusés dans les genres publics en langue vernaculaire. Je vous remercie de votre attention.